acrostiche. Poème dont les initiales des vers, lus verticalement, composent un mot. Et avec le mot écriture, qu'est-ce que ça pourrait donner? E. Écrire un roman. C. Comme le ferait R. Romain Rolland. I. Intimité d'un récit. T. Tout en douceur. U. Un baume sur le cœur. R. Raconter une vie. E. Et finir quand tombe la nuit.
En bateau, en attaché avec son cœur, avec ses pieds. Tout raturé, droit ou penché, à la plume ou bien à la craie. En silence comme ça pour de vrai, en chinois ou en javanais. À l'ancienne, au plus que parfait.
L'écriture. Quel souvenir d'enfance lié à l'écriture? Bien, pour moi, pas forcément les meilleurs. Allez, remontons jusqu'à mes 7 ou 8 ans. Il faut dire que j'étais plutôt une bonne élève à l'époque, sans vouloir me vanter. Enfin, disons que j'avais des bonnes notes. Sauf en écriture. Je crois qu'on notait à la fois si l'écriture était bien faite et le soin qu'en général qu'on apportait à nos cahiers. À l'époque, on écrit avec une plume dans un porte-plume, une plume sergent-major, et de l'encre qu'on mettait dans des encriers intégrés dans nos tables de classe. Je suppose que je plaçais mal mes mains sur le porte-plume et que mes doigts touchaient la plume. Enfin bref, j'avais toujours de l'encre plein les mains. C'était pas la peine d'appeler la police scientifique pour savoir quels étaient mes cahiers. Il y avait mes empreintes digitales partout. Et voilà, 10 en calcul, enfin 10 ou pas loin en conjugaison et grammaire, et en soin. Alors déjà, rien que le mot soin, ça me hérisse le poil. Donc en soin, je devais avoir 2, les bons jours. Mais il n'y avait pas que le problème de la note, enfin qui était un peu vexante quand même. Le pire, comme je vous l'ai dit, c'est que j'avais de l'encre plein les mains. Et au lieu de chercher à comprendre pourquoi j'étais le seul cochon de la classe, essayer de corriger ma position, la maîtresse a dû trouver beaucoup plus simple de me faire avoir en permanence du savon et une serviette. Et à la fin de chaque séance d'écriture, je devais aller aux toilettes pour me laver. Et j'étais la seule de la classe à devoir faire ça. Il fallait que je me lève devant tout le monde, que je traverse toute la classe avec ma petite serviette et mon savon. La honte ! Je peux vous dire que j'ai béni l'arrivée du stylo bille. Merci, monsieur Bic. Mais mon histoire avec l'écriture ne s'arrête pas là.
Dans un cahier, sur un tableau, dans le sable ou sur un oiseau. Au bout du monde, sur une pierre, contre un arbre au bord de la mer. Au saut du lit, dans sa cachette, tard dans la nuit, à la fenêtre. Sur des carreaux, sur des murs, à la ligne et à l'aventure.
Et pour pouvoir écrire des textes, des phrases, des mots, il faut des lettres. Bien longtemps après mes déboires scolaires, plus de 40 ans plus tard, j'ai croisé la route d'une calligraphe qui m'a fait découvrir une autre facette de l'écriture. La calligraphie. La belle écriture. L'art de former de beaux caractères. Moi, retoucher un porte-plume, renouer avec l'encre, mais j'avais peut-être une revanche à prendre. Voilà comment j'ai commencé à m'intéresser à la beauté des lettres et aussi à leur histoire. L'écriture, c'est ce qui distingue la préhistoire de l'histoire, et ce n'est pas rien. L'écriture est apparue à différents endroits dans le monde et à différentes époques. On ne va s'intéresser qu'à l'alphabet latin, le nôtre. Et pour lui, tout commence avec les hiéroglyphes égyptiens, il y a environ 5500 ans. Les hiéroglyphes constituent un système complexe. Un caractère représentant soit un mot, soit un son. C'est une sorte de rébus.
« les Égyptiens vont rencontrer des Cananéens venus travailler en Égypte. Les Cananéens arrivent de la rive est de la Méditerranée. Ils vont imiter les Égyptiens et adapter les signes à leur langue en affectant un son à un signe. Les dessins figuratifs deviennent des lettres et l'alphabet est né. Les Cananéens vont rentrer dans leur pays et ramener cette écriture. Elle va être ensuite reprise et adaptée par les Phéniciens. Les Phéniciens habitaient à peu près le périmètre du Liban actuel. Les Phéniciens vont donc reprendre cet alphabet et en faire un système de 22 lettres, uniquement des consonnes, et qui s'écrit de droite à gauche, donc à l'inverse de notre écriture actuelle. Là, on est il y a environ 3000 ans.
طاب الليمون عالشجر يمين يهز الشجر لما رواه المطر عبي بيه حجره.
Les Phéniciens sont de grands marchands et de grands navigateurs. Ils vont diffuser leur alphabet à travers tout le Moyen-Orient et en Méditerranée. C'est lui qui va être à l'origine de nombreuses écritures. En Orient, il donnera naissance à l'écriture araméenne qui engendrera les caractères hébraïques, mais aussi arabe, persan et indien. En Occident, il donnera les bases de l'alphabet grec, dont dérive le latin, ah voilà enfin notre alphabet, et plus tard le cyrillique. Jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, on écrira de droite à gauche, ou en boustrophédon.
J'ai du mal à le dire, boustrophédon. Mais quel est ce terme bizarre ?
Eh bien, il s'agit d'un système d'écriture, dont les lignes qui se suivent se lisent alternativement de droite à gauche et de gauche à droite. Donc quand on arrive en bout de ligne, on ne repart pas au début de la ligne, mais on repart dans l'autre sens, comme les sillons de la bourre. Et d'ailleurs, boustrophédon vient du grec ancien de deux mots qui signifient « bœuf » et « action de tourner ». 200 ans plus tard, on va passer à une écriture de gauche à droite. Eh, ça y est, nous y sommes. Mais vous avez vu quelle épopée ça a été pour que nous puissions aujourd'hui rédiger un roman, une lettre d'amour ou un email. Les premiers pictogrammes dont dérive la première lettre phénicienne Aleph, ancêtre de notre A, représentent un taureau. Un triangle, pointe en bas, prolongé par deux cornes. Vers le 11e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens basculent ce signe de 90 degrés. Les cornes sont alors tournées vers la droite. Encore un coup de 90 degrés, et voilà notre grand A. Essayez donc, prenez un papier et dessinez un grand A. Tournez votre feuille pour la mettre la tête en bas. Alors, vous la voyez la petite tête de taureau avec ses deux cornes ? Et le H, il n'est pas beau le H ? En capitale, il est lui aussi bien stable sur ses deux colonnes avec sa traverse bien droite. En minuscule, une montante qui se dresse vers le ciel et une petite jambe qui, selon les écritures, va être parfois sobre, parfois joliment arabiscotée. C'est vrai qu'il ne fait pas partie des lettres les plus utilisées en français, mais je l'aime bien quand même. La forme picturale du H symbolise la notion de barrière. Deux traits horizontaux parallèles et des barreaux verticaux, dont le nombre varie selon l'époque. Son évolution est relativement simple. Il va basculer de 90 degrés pour devenir une échelle, et il sera simplifié en grec classique en ne conservant qu'un seul barreau. Savez-vous que le H n'est pas forcément féminin ? On a pour habitude d'attribuer le masculin à toutes nos lettres, et c'est ce qu'on va trouver dans le Larousse. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et aujourd'hui encore dans le Littré, la lettre H est féminine. Une petite H, une H majuscule, une H muette. Voilà, je vous ai offert deux lettres, le A et le H. Faites-en bon usage. deux lettres comme initiales, animal et homme, amour et haine, ou pour débuter de bien jolis mots. Hallucinant, harmonie, hamac, harpe, au bois, Hawaï. Être dans un hamac à Hawaï, au son du hautbois et de la harpe, quelle harmonie! C'est hallucinant, non?